Nous sommes face à Angélique Clairant et Éric Massé. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on vous cueille juste avant la deuxième représentation, la reprise plus exactement, de L'Avalo, que nous avons vu hier donc au Théâtre du Point du Jour. On reparlera du fait que vous êtes co-directeur l'un et l'autre depuis la rentrée. Et donc, vous vous dévoilez dans cette pièce en quelque sorte, cette pièce qui a été écrite à quatre mains, donc vous deux, en révélant vos origines rurales, auxquelles, par honte et besoin d'émancipation, vous vous êtes dans un premier temps détaché. Alors, est-ce un processus de résilience? Parce qu'à un moment, vous parlez même de vengeance.
Alors, de résilience, oui, qui me semble tout à fait naturel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté mon village et ma famille, je n'avais aucune envie de revenir. J'avais surtout envie de ne pas revenir. Et puis après, le temps fait que on prend une forme de distance. On voit aussi des acquis, des atouts, des valeurs qui nous ont été transmises qu'on n'avait pas vues à l'époque parce qu'on cherchait surtout à fuir certains éléments plus que d'autres. Et du coup, effectivement, à l'âge qu'on a aujourd'hui, on a une capacité de recul et aussi c'est pour ça qu'on a pu créer ce spectacle qu'on n'aurait même pas créé il y a 5 ans. Quoi.
Après, vous parliez de vengeance, c'est une autofiction. C'est-à-dire que Éric parle, lui, plus de la partie autobiographique. Moi, je vais plus vous parler de la fiction. On s'est inspiré aussi de romans et puis d'essais autour de la question des transfuges de classe, notamment de Vincent de Gaulé-Jacques, qui a écrit La névrose des classes et Les sources de la honte, et puis Annie Ernaux avec La place. Et ça nous paraissait intéressant de partir de nos histoires, mais de pousser les curseurs. C'est-à-dire que si on part de notre histoire, limite, c'est presque pas intéressant. Mais par contre, si on crée des éléments dramaturgiques au sein de cette fiction, et notamment l'idée de vengeance, peut être intéressant. C'est beaucoup ce que nomme aussi Annie Ernaux. Elle avait cette envie, cette rage, ce besoin d'avoir une revanche sur sa classe sociale.
Elle disait venger sa race.
Ouais.
Mais elle, en fait, c'est plus dans un second temps, parce que quand on entend vengeance, on entend se venger contre les gens d'où on vient. Alors qu'en fait, elle, quand elle en parle, elle venge sa race, donc elle venge plutôt les gens d'où elle vient. C'est-à-dire qu'elle se considère comme quelqu'un qui peut raconter ce monde-là parce qu'elle en vient et leur donner la parole. Et d'un seul coup, c'est une revanche finalement. Alors que le mot vengeance, il peut être juste accusateur vers le passé. Et finalement, je pense qu'avec Angélique, on est dans une démarche proche d'Annie Ernaux et que c'est plus d'un seul coup, on permet au plateau de découvrir des gens qui en sont exclus. En général, la plupart des pièces s'intéressent aux drames bourgeois, aux classes moyennes ou aisées. Mais finalement, on a rarement des personnes de la diversité au plateau. Donc c'est une chose qui est en train de bouger à tous les niveaux. Hein. Quand c'est diversité, ça peut être religieuse, ça peut être géographique. Et des fois, on est aussi exclu quand on vit en banlieue que quand on vit dans le monde rural.
Ça évoque aussi l'auteur Édouard Louis, qui lui aussi vient d'un milieu qui n'est pas celui où il est aujourd'hui. Il en parle dans un livre.
Alors, tout à fait. C'est un ouvrage qu'on aime bien avec Angélique, qui nous a beaucoup touchés. Et j'ai eu la chance de tourner dans l'adaptation cinématographique qui a été faite de ce livre-là. Donc, c'est Pour en finir avec Édouard Louis et qui est devenu Marvin, tourné par Anne Fontaine. L'histoire d'un garçon de la campagne qui, d'un seul coup, va vivre une revanche à travers le fait de faire du théâtre et de faire des études, de gagner de l'argent, de s'éloigner de son milieu et de pouvoir en même temps le représenter au plateau, le faire exister dans des textes, faire entendre ces paroles-là. Ouais.
Alors, vous parliez tout à l'heure pour autant des traits de caractère ou qualités que vous avez hérités de cette enfance dans les zones rurales. Outre ce langage évidemment un peu grossier de prime abord, bien évidemment, qui est d'ailleurs très proche du québécois et de l'acadien, j'ai noté. Dans cette pièce, on sent beaucoup le partage, l'ouverture, la générosité. Notamment la part belle qui est laissée à la jeunesse avec les deux acteurs de la jeune génération, des identités plurielles aussi.
C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, on est parti de nous, de notre histoire, Éric et moi, mais on s'est inspiré aussi des histoires des comédiens, et notamment l'histoire de Mbaye, qui est lui-même migrant. Et quand on l'a rencontré, il a fait la formation à Lyon du compagnonnage du GEC avec Adèle. Et on les a rencontrés sur un temps de formation où on leur a demandé d'improviser autour de cette question, en gros, à quel moment ils avaient, dans leur parcours de vie, subi un moment d'humiliation. Et lui, à ce moment-là, il cherchait un appartement à Lyon et il n'arrivait pas à trouver d'appartement. Et donc, il s'est mis à improviser sur une scène avec une conversation téléphonique avec une agence immobilière qui finissait en pugilat. Et donc, on a trouvé que son parcours était intéressant, et notamment ce passage-là.
Et quand on parle de la diversité, justement, ce qui est intéressant, c'est que nous, les personnes âgées, on va les mettre dans des foyers spécifiques pour eux, alors que Mbaye vient du coup de la culture sénégalaise, où les personnes âgées vont rester ou vont venir dans le cercle de la famille, et c'est la famille qui va finalement, dans le microcosme de la case, finalement s'occuper d'eux. Du coup, pour lui, c'était intéressant aussi de se dire qu'il prenait pas en tant que personnage, un job qui n'était pas intéressant, mais qui prenait un job où finalement il se retrouvait à faire ce qu'il faisait au pays, c'est-à-dire s'occuper des anciens. Donc ça, c'était intéressant aussi, parce que des fois on se dit, oh, quand même, être aide-soignant, c'est quand même un boulot terrible. Mais finalement, selon sa culture, on peut aussi y trouver une chose tout à fait valorisante. Donc là, justement, c'est dans l'ethnopsychiatrie, on parle beaucoup de cette question-là, comment d'un seul coup comprendre l'autre à travers sa culture et non pas à travers sa propre culture. Donc de changer la grille de lecture, et c'est pour ça qu'on s'est dit avec Angèle, c'est intéressant qu'il ait ce rôle-là, parce qu'il va aussi déplacer le curseur du soignant, très professionnel, très carré, en débordant dans des choses beaucoup plus intimes, et des fois avec des débordements un petit peu trop, on va pas non plus divulgâcher les choses pour le public, mais voilà, ce qui va aussi donner une dramaturgie particulière à la pièce.
Mbayangom, d'ailleurs, qu'on retrouvera plus tard dans la programmation.
Dans Un étranger, mis en scène par Mayan Barthès en décembre, que vous pourrez voir au Théâtre du Point du Jour et que vous pouvez voir aussi en version nomade dans différents lieux du 5e arrondissement.
Alors, concernant ce besoin d'acquérir la culture et le langage pour vous émanciper, vous dites que par le théâtre, vous avez pu dépasser vos origines, et là, vous y revenez, donc pour remettre en perspective, justement, cette origine d'où vous venez. Est-ce donc un acte de sublimation qui a été réfléchi ?
Comme je le dis dans le spectacle, j'ai toujours su que je partirais. C'est-à-dire, il y a des gens qui me demandent, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais partir ? Je dis, mais moi, en fait, je l'ai toujours intégré. Parce que, en fait, je me suis souvenu il y a peu de temps, en écrivant le spectacle, que dès l'âge de 4 ans, je disais déjà que je me marierais jamais avec un paysan. C'est-à-dire, j'avais intégré le fait que je partirais. Et après, moi, je voulais devenir plutôt enseignante. Et puis, je faisais un peu de théâtre à côté. Et en fait, j'ai passé le concours de l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Et c'est quand je suis rentrée dans cette école où je me suis dit, mais je peux être légitime et je peux y avoir accès. Alors que je ne savais même pas qu'il y avait des écoles de théâtre. Pour moi, c'était inaccessible. Je ne l'imaginais même pas, parce que je ne pouvais pas penser qu'on pouvait devenir comédien, en faire son métier, quoi.
Mais le fait d'avoir voulu faire une pièce justement sur ses origines, ses origines qui au départ étaient vécues comme quelque chose d'assez honteux et de désagréable, finalement vous les avez quand même remises au goût du jour dans un spectacle.
C'est notamment beaucoup par les lectures, c'est-à-dire que oui. Didier Ribon, Annie Ernaux, Édouard Louis sont revenus vraiment sur le devant de la scène, là, et notamment ont été beaucoup adaptés au théâtre. Et c'est vrai qu'en nous replongeant dans ces lectures-là, on s'est dit, mais finalement, on a aussi des histoires communes par rapport à ces personnes-là.
Il faut dire qu'à l'origine, on ne comptait pas écrire la pièce. Non. On comptait adapter un roman ou plusieurs romans d'Annie Ernaux. Mais en fait, Annie Ernaux, elle parle d'une époque un peu différente de la nôtre. Donc ça, c'était un petit peu plus gênant. Par exemple, elle va avoir dans ses romans habité par la problématique de l'avortement clandestin, puisqu'à l'époque, elle avortait un an avant que la loi portée par Simone Veil passe à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'était donc des problématiques générationnelles qui sont un peu différentes pour nous. Et puis la deuxième chose, c'était ses origines sociales, finalement. Elle est la fille de petits boutiquiers, ils ont le café du commerce, ils font de l'épicerie, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et elle vivait en ville, finalement, même si c'était des petites villes. Et nous, c'était vraiment différent. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on a vu ces différences, le travail de projection était plus difficile. Et c'est là qu'on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on n'écrirait pas nous-mêmes une pièce sur ce sujet-là, où on serait plus proche de nos origines, de notre retour aux sources.
Et puis, c'est vrai que la campagne, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui. Enfin, on en parle beaucoup dans l'actualité, des campagnes, des paysans. Il y a même un film qui est sorti, d'ailleurs, Au nom de la terre. Donc, c'est des choses, c'est des choses qui reviennent. Et moi, je voulais parler de la scénographie de Johnny Le Bigot. En fait, quand on rentre dans le spectacle et qu'on voit, on voit un amoncellement d'objets hétéroclites, un fatras de plein de choses différentes. Et on est à la fois étonné de cette chose, on a l'impression que c'est un peu brouillon, et en même temps on se rend compte au fur et à mesure que c'est assez proche finalement de ce que vit la vieille dame qui perd la mémoire. Et puis au fur et à mesure de la pièce, finalement, tous les objets vont être plus ou moins utilisés et on va aller vers un espèce de dépouillement qui va permettre de garder seulement l'essentiel. Et donc, enfin, pour vous, quel est l'essentiel finalement ?
C'est une chose qui peut être résumée en une phrase, c'est-à-dire que quand on vient de ces milieux-là, on est encombré. Le principe du dispositif, c'est de d'abord montrer l'encombrement, l'enchevêtrement, et comment, au fur et à mesure que la fable se développe, que les personnages mûrissent, s'affirment, on va dépouiller l'espace. Et c'est vrai qu'à la fin, on est sur un plateau qui est quasi nu, avec juste un matelas au sol, et à la périphérie, on sent que l'encombrement a été évacué.
Alors, donc la pièce est une autofiction, mais du coup, qu'est-ce qui vient de l'invention et qu'est-ce qui vient de ce que vous avez vécu ? qui a la part de réalité finalement.
Sachant que vous l'avez réécrit, hein, ce spectacle.
Oui, on vient de faire une phase de réécriture, puisqu'on avait créé il y a un peu plus de 6 mois. Donc ça nous a permis d'avoir un petit peu de recul, de fouiller un petit peu les choses, de modifier le puzzle de la pièce. Mais alors donner des pourcentages serait très difficile. En fait, le principe, c'est qu'au début, on a écrit des histoires réelles, un peu comme un carnet de bord avec Angèle. Et dans un second temps, quand on a inventé la trame avec les personnages, on a vu avec quel personnage, quelle histoire pouvait être intéressante. Donc, par exemple, il y a des histoires qui sont portées par le personnage d'Angèle, qui sont des histoires que j'ai écrites, qui me sont personnelles. On n'avait pas besoin de se raconter l'un l'autre. Ce qui était intéressant, c'est comment notre matière de vie pouvait ensuite intégrer une fiction, et après, quel que soit le personnage qui porte cette langue. Et après, bien sûr, il y a des scènes fictionnelles qui se sont créées de par les croisements qu'on avait envie de faire entre les personnages, d'éléments qui ne nous étaient pas arrivés, mais dans un langage propre à notre patois d'origine, donc le parlange, ou propre aux différents personnages de la pièce, puisqu'on entend aussi du Wolof avec le personnage sénégalais, et la jeune agricultrice néo-rurale qui vient s'installer est fan de culture country, culture impérialiste mais aussi très populaire, qui imprègne les campagnes françaises, et va chanter en anglais.
Alors en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que finalement tous les personnages sont en décalage avec leur milieu d'origine. Vous deux qui venez tous les deux d'un milieu rural et qui en partie avaient progressé, on va dire, dans la société. Ensuite, donc il y a Mbaye qui vient donc du Sénégal et qui doit s'adapter à sa nouvelle vie en France. Il y a donc la vieille dame qui perd la mémoire et qui vit dans un autre temps que celui actuel. Et puis il y a la jeune fille qui vient justement de s'engager dans une ferme, qui connaît pas forcément les rouages d'une vie à la ferme et qui est nouvelle et qui donc n'est pas forcément acceptée dans le milieu où elle vient. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir ces différents personnages qui évoluent dans des milieux différents. Et le milieu d'origine dans lequel ils partent, parfois, se croise avec celui de l'autre. C'est ça qui est assez étonnant et fort.
Ah bah vous avez tout à fait bien décrypté justement ce voyage transclasse, pour reprendre une expression de Chantal Jacquet, qui est une philosophe qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et on se rend compte qu'en fait, à la campagne, finalement, on a toutes ces figures-là, en fait. Le spectacle, c'est un microcosme de ce qu'il y a à la campagne. C'est-à-dire que, par exemple, Eric, son grand-père, il y a une aide-soignante qui venait tous les jours chez lui le soigner et qui était sénégalaise. Et donc, cette personne-là, forcément, ne vient pas du tout de la campagne et du village d'Eric. Voilà, il y a aussi, on se rend compte que nous, dans nos campagnes, il y a aussi des néo-ruraux, et puis des gens qui ont voulu partir, et puis des gens qui restent, quoi.
Et la pièce, elle se veut le miroir, justement, de cette complexité de la campagne, entre ceux qui arrivent, ceux qui partent, ceux qui migrent, et ça en fait la richesse, et aussi ça en fait la multiplicité des langues. On voit souvent le fait que dans les grandes villes, il y a beaucoup de langues, mais finalement, à la campagne, si on accepte les langues rurales, ça fait aussi beaucoup de langues.
Le langage de la pièce, c'est un langage poitevin, c'est ça, le parlange ?
C'est la langue poitevine, c'est le poitevin saintongeais, qui en gros qui est parlé du sud de Nantes jusqu'au nord de la Gironde.
Et alors j'ai lu qu'il était peut-être en danger d'extinction.
Oui, bah, comme beaucoup de langues régionales. Hein. Après, la particularité de se parler, c'est qu'on peut retrouver... Évidemment, c'est drôle parce que hier soir, il y avait des gens qui venaient d'Occitanie et puis des gens qui venaient du Nord. Et il y a des gens qui disaient « Ah, mais moi, on dit à peu près les mêmes choses. » Mais finalement, la particularité du parlange, c'est que c'est un mélange en fait, de la langue d'Oïlk et de la langue d'Oïl. Et finalement, on retrouve un peu des cousinades entre ces différentes langues, quoi.
Et alors actuellement, c'est quand même une langue qui est enseignée à l'université de Poitiers, et avec la région Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même des fonds qui sont dédiés à la survie de ces langues-là, qui peuvent être intéressants, d'autant qu'il y a l'UPCP Métive, qui est un lieu de ressources pour cette langue, qui à la fois travaille sur des collectes pour que cette langue ne se perle pas, mais qui investit aussi dans tout un travail d'animation et de transmission et de spectacles aussi, alors ça peut être musicaux ou autres, pour que cette chose intègre des spectacles vivants, justement, soit pas juste quelque chose de l'ordre de la mémoire et de l'ordre de l'archivage.
Alors, un petit mot peut-être en parlant, en conclusion, peut-être vous qui êtes nouvellement nommé co-directeur du Théâtre du Point du Jour, peut-être votre ressenti par rapport à ça.
Ah, mesdames, ils sont bécontents.
Ils sont bénaises.
Bénaises, c'est pas trop, parce que bénaises veut dire qu'ils sont tranquilles. Disons qu'ils sont plutôt yaknasson bered.
Eh bien, à bientôt. Bienvenue au Point du Jour.
Ok, merci beaucoup.